De la recherche.
Radio Campus.
Grenoble.
90.8.
Les villes sont les rêves que l'humanité construit en pierre. Il est 10h, vous êtes à l'écoute de Radio Campus, à l'émission Les Chemins et Traverses de la Recherche. Dehors, l'hiver est bien là, un froid sec, parfois mordant, qui resserre le corps et ralentit les pas. La ville, ce matin, semble plus dense, plus grave aussi. Les rues fument légèrement, les façades retiennent la nuit, et le temps paraît suspendu, comme si l'espace urbain lui-même prenait le temps de réfléchir. Et ce n'est sans doute pas un hasard, car nous sommes au commencement d'une nouvelle année. Une année encore fragile, encore silencieuse, comme une page blanche au cœur de l'hiver. Toute l'équipe de Radio Campus vous adresse ses meilleurs vœux, des vœux de chaleur malgré le froid, des vœux de pensée libre, de création et surtout des vœux d'espace à imaginer ensemble, des villes à penser, à rêver, à transformer, car depuis toujours la ville est bien plus qu'un simple décor. Elle est un miroir, un projet, parfois une promesse. Et il fut un temps, à la belle époque, entre la fin du 19e siècle et les portes de la Première Guerre mondiale, où certains ont cru possible d'imaginer la ville idéale, capable de rassembler l'humanité autour du savoir, des arts et des communications. Ce matin, nous vous proposons un voyage à travers ces songes urbains et utopiques, à la rencontre d'un écrivain et d'un projet aussi grandiose que Déroutons, la capitale mondiale de l'humanité. Une émission pour commencer l'année en prenant de la hauteur, en interrogeant nos villes d'hier pour mieux comprendre celles d'aujourd'hui et peut-être esquisser celles de demain. Le guide dans ce voyage entre fiction et ville réelle est Kevin Pelado, doctorant en littérature, dont la recherche bien sûr interroge les liens subtils entre littérature d'anticipation et naissance de l'urbanisme moderne à partir d'une figure aujourd'hui largement oubliée, Paul Adam. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Voilà, dis un peu aux éditeurs qui tu es.
Alors oui, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, d'être là ce matin. Alors, pour me présenter, je m'appelle Kevin Pelado, je suis actuellement doctorant en littérature donc à Grenoble sous la direction de Delphine Glaise et je fais ma thèse sur la littérature dite d'anticipation à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Une littérature qui a été étudiée récemment par de grands programmes de recherche, notamment un grand programme à ENR dans la deuxième moitié des années 2010, entre 2014 et 2019 et même au-delà. Un programme qui a essayé d'exhumer, d'étudier, de compiler, de synthétiser dans une grande base de données la production de fiction d'anticipation conjecturale, donc qui imagine une réalité autre, soit dans le futur, soit aujourd'hui, mais différente de celle que nous connaissons, donc entre 1860 et 1940, des fictions qui sont très variées, dans des milieux légitimes, moins légitimes, certains appartenant au domaine de la presse, du monde médiatique plus largement, et des fictions qui sont le plus souvent d'inspiration rationnelle et scientifique, c'est-à-dire s'appuyant généralement sur les grandes sciences qui ont pu se développer au XIXe siècle avec leur méthode rationnelle et expérimentale. Et donc ces chercheurs, dont fait partie notamment ma directrice, on travaillait à la constitution de cette base de données. J'ai moi-même pu contribuer sous la forme de fiches à cette base de données, en lisant des textes souvent voilà, d'auteurs parfois méconnus. Et c'est dans ce cadre que progressivement est né mon projet de thèse. Et revenait régulièrement la question des imaginaires utopiques dans ce contexte précis, donc deuxième moitié du 19e siècle, puis première moitié du 20e siècle, des imaginaires utopiques et urbains, à une période qui n'est pas sans intérêt dans l'histoire de l'urbanisme, puisque c'est à cette même période que se constituent les formes d'urbanisme moderne. Alors il a toujours existé des formes d'organisation des villes dans l'histoire, mais cette période-là est différente dans la mesure où se constitue une véritable science de l'urbanisme, ou du moins on prétend à la construction d'une grande science de l'urbanisme, c'est-à-dire rationaliser scientifiquement la construction des villes, par exemple construire rédiger ou dessiner de grands plans mettant en jeu toutes les échelles d'une grande cité pour aménager principalement en Europe, mais même aux États-Unis et au-delà, les grands centres urbains. Et donc finalement, mon corpus de thèse, qui imagine des villes qui n'existent pas, elles sont assez nombreuses, sous des formes différentes, côtoie, et c'est un peu l'enjeu de cette thèse, ce moment de construction de l'urbanisme. D'accord. Et donc des moments de prospectif, on imagine à quoi ressembleraient les villes de l'avenir.
D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Alors, Wagner peut ouvrir le paysage sonore et bien sûr installer l'atmosphère de cette émission. Wagner, Trail of the Gods in Valhalla. Nous sommes avec Kevin Pilado. Alors, Kevin, ta recherche s'inscrit à la croisée de la littérature, de l'histoire urbaine et de l'anticipation. Alors, les auditeurs et auditrices souhaiteraient savoir comment elle t'est née.
Alors, mon sujet de recherche est donc né de... Alors, ça a été une discussion que j'ai pu avoir avec les différents responsables des recherches avec qui je pouvais échanger à cette époque-là, donc vers 2018-2019. J'ai commencé ma thèse en 2019. En fait, j'ai depuis longtemps un intérêt personnel pour les questions liées à la géographie et l'espace en littérature. C'est un sujet qui revient régulièrement, même dans mes mémoires, d'étudier les formes d'espace dans la littérature. Et est né progressivement ce sujet autour de la question urbanistique dans le corpus d'anticipation, tout simplement parce que il y avait une certaine récurrence au sein du corpus de villes imaginaires, dans un contexte aussi aujourd'hui, puisque les thèses se construisent souvent de cette façon-là aussi, où il y a des sujets porteurs dans la société, et cette question des sujets urbains revient régulièrement dans les recherches dans différentes disciplines, en géographie, en architecture, en sociologie, en littérature. Donc ça a été un des points de départ, voir cette omniprésence dans le corpus, pour des auteurs parfois peu étudiés, et donc la naissance d'un sujet possible. Alors, finalement, ensuite, la première étape était dans la mesure où le projet ANR Anticipation avait cartographié de façon très précise les productions. Moi, ma démarche était plutôt inverse, non pas essayer de les compiler, mais plutôt de les explorer dans le détail. Donc ça a été l'enjeu des premières années de thèse, d'essayer de voir à partir de mon sujet quelles étaient les œuvres les plus pertinentes, les plus intéressantes. Et donc j'ai pu progressivement me concentrer sur certains auteurs de ce corpus, et même autrices de ce corpus, qui avaient une proximité avec le sujet ou qui l'ont développé plus longuement. Et là, ça a été un long travail, notamment parce que j'ai essayé de voir progressivement quels étaient les liens, les sociabilités, les milieux intellectuels dans lesquels ces écrivains et ces écrivaines pouvaient œuvrer, et essayer d'identifier de potentiels points de contact entre la littérature et l'urbanisme ou l'architecture, sachant que les deux ne se superposent pas. Et donc, progressivement, plusieurs auteurs un peu phares ont émergé de ce corpus. Je pense par exemple à Jules Verne, évidemment, qui est l'auteur le plus connu du corpus de l'anticipation, qui n'est pas nécessairement celui sur lequel je vais le plus porter mon attention, parce qu'il y a régulièrement des villes imaginaires dans les textes de Jules Verne, mais c'est pas l'auteur qui est le plus proche, finalement, des enjeux de l'urbanisme à cette période-là, contrairement à d'autres qui sont parfois un peu moins connus, mais qui sont plus proches. Je pense par exemple à un auteur qui a écrit plusieurs romans utopiques dans la base de données qui s'appelle Eugène Fournière, qui a été un professeur dans les institutions de sociologie de la Belle Époque, et notamment des institutions très proches de la naissance de la société d'urbanisme française, par exemple. C'est le cas aussi d'Émile Zola, de façon surprenante, aussi un des auteurs les plus connus, dont un des derniers livres publiés de son vivant, Travail, en 1901, si je ne me trompe pas, a été repris par un architecte lyonnais, Tony Garnier, pour ses plans d'une grande cité industrielle utopique, qui est un des plus grands projets architecturaux du début du XXe siècle, et qui cite explicitement le texte de Zola. Paul Adam, qui est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, l'auteur qui va nous intéresser aujourd'hui, fait lui aussi partie des auteurs qui ont eu des points de contact très étroits avec des projets urbanistiques, notamment ce grand centre mondial des communications, un projet qui naît au cours des années 1910. Alors, ça a été vraiment la première étape du travail, d'essayer d'identifier ces points de contact. Et moi, j'étais sensible à aussi trouver des liens qui ne soient pas uniquement thématiques. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre un auteur comme Jules Verne, il parle régulièrement de villes dans ses textes, de villes scientifiques, industrielles, certaines imaginaires. Mais il est plus difficile de voir quels ont été ces liens personnels, en quelque sorte, même s'ils existent avec certains milieux intellectuels, avec d'authentiques projets urbanistiques. Et j'ai essayé d'identifier des auteurs qui ont pu être proches, et c'est le cas ici de Paul Adam. C'est pour ça que je me suis intéressé à lui, plus particulièrement aujourd'hui, tout simplement parce que c'est aussi un auteur qui n'est pas le plus étudié dans le corpus que nous étudions, contrairement à Verne qui lui est beaucoup plus étudié. Et qui a aussi le plus de... là où il y a le plus de choses à découvrir et conceptualiser.
D'accord. On va souffler un tout petit peu avec Camille Saint-Saëns. Lui a su la technique ce matin au micro, Guy Rokounon, bien sûr, notre très cher intervenant. Ce matin, c'est Kevin Pelado. Alors, Kevin, tu travailles donc à partir d'un corpus très large. Alors, peux-tu nous en dire plus?
Alors oui, bien sûr, ce corpus de l'ANR Anticipation donc, avait vraiment pour but d'être très large, notamment pour produire des analyses à partir d'humanité numérique, notamment pour essayer de faire surgir par différents outils des constantes ou produire des réflexions dans le cadre de nombreuses recherches qui sont faites actuellement. Moi, dans la mesure où mon sujet est plus thématique, une question d'urbanisme et d'urbanisme utopique ou imaginaire, moi, un des enjeux était notamment d'explorer ce sujet à travers la variété des sous-corpus de ces textes, dans la mesure où ce corpus en fait rassemble différents milieux, différents milieux éditoriaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors pour essayer de les résumer très rapidement, mais on pourrait rentrer bien plus dans le détail. Par exemple, un auteur comme Jules Verne écrit ses romans dans des collections d'aventures pour la jeunesse, d'aventures géographiques pour la jeunesse, chez l'éditeur Hetzel. Alors que, par exemple, d'autres auteurs, dont Paul Adam, dont on va parler aujourd'hui, ou Eugène Fournière, publient des romans généralement non illustrés, contrairement à Jules Verne, chez des maisons d'édition plus généralistes, on va dire, à l'époque, qui publient aussi parfois des ouvrages plus proches de la poésie, du roman, et surtout un public qui n'est pas spécifiquement, en théorie, la jeunesse. Alors, on sait très bien que Jules Verne n'a pas été lu que par la jeunesse, mais... on va dire que le dispositif éditorial en lui-même n'est pas destiné à la jeunesse sur le papier. La qualité de ce grand corpus, c'est de rassembler toutes ces œuvres pour les étudier de façon systématique, même historique, à une période donnée. Et moi, j'essaie redessiner quelques sous-corpus, de sorte à pouvoir explorer un peu plus précisément mon sujet en fonction des enjeux éditoriaux. Alors justement, moi j'ai un premier sous-corpus de romans d'aventure géographique pour la jeunesse, avec des auteurs comme Jules Verne, par exemple, ou d'autres sur la période qui sont proches. Je pense par exemple à André Laury, de son vrai nom Pascal Grousset, qui publie lui aussi chez Hetzel, et qui sont dans des domaines très proches. J'ai un autre sous-corpus auquel je greffe justement Paul Adam, qui est ce que le critique littéraire et poète Gustave Kahn a pu appeler dans les années 1900-1910 le corpus du roman utopique, roman d'utopie ou roman chimérique, ces trois expressions qui sont employées, qui sont parfois un peu synonymes, et qui regroupent des auteurs allant de Ronnie Aîné, par exemple, à Paul Adam, en passant par Villiers de l'Isle-Adam, qui sont généralement des auteurs plus proches du mouvement, c'est-à-dire du symbolisme à la fin du 19e siècle. Alors il y a de nombreuses parenthrées entre ces corpus, des thèmes, des sujets qui sont en commun, et on va dire que Paul Adam, lui, s'inscrit dans cette génération-là d'écrivains, qui sont généralement des écrivains aussi, en apparence, hostiles au naturalisme d'Émile Zola. En réalité, il lit Zola et il l'apprécie beaucoup, et certaines de ses œuvres notamment. On va dire que c'est un mouvement de réaction à un certain scientisme du roman, si on veut, qui est parfois pressenti, un roman développé entre les années 1860 et 1880. Et c'est une génération d'écrivains qui cherche à accorder au rêve, à l'imaginaire, à un pas de côté par rapport à la réalité objective de notre monde, une place centrale dans leur écriture. Ce qui est précisément le cas de Paul Adam, et ce qui les conduit à avoir des projets d'anticipation, imaginant des réalités autres ou alternatives. Et précisément, dans ce corpus-là, se trouvent de très nombreuses projections urbaines. Et sinon, ensuite, un des troisièmes sous-corpus, mais ici, je ne vais pas trop le développer. Alors, ici, ces corpus sont vraiment liés de façon subtile, mais c'est simplement pour essayer de cartographier un peu plus précisément. Un dernier sous-corpus, c'est un corpus plus, qu'on pourrait dire, plus médiatique, de production, de fiction dans la presse, des petites nouvelles, des images satiriques. Un auteur comme Alphonse Allais, par exemple, ou un illustrateur comme Albert Robida, sont des auteurs, des illustrateurs qui appartiennent à des générations très fortes d'auteurs satiriques dans la presse, qui produisent également de nombreuses anticipations. Et là, par exemple, pour comparer avec Paul Adam, c'est un auteur où il n'y a pas vraiment de dimension satirique dans ses textes, ou alors très très peu. Mais pourtant, c'est bien des corpus qui sont liés pour d'autres raisons, mais ici, ce n'est pas le sujet qui va nous intéresser. Donc voilà pour essayer de cartographier un peu plus précisément. Et en ce qui concerne Paul Adam,
d'accord, plus précisément. Justement, dans ta recherche, effectivement, tu tombes un peu sur cet écrivain comme une chose inattendue dans la thèse. Alors, Paul Adam, qui est-il ?
Alors oui, tout à fait. Moi, je ne le connaissais pas avant de m'intéresser à ce corpus, et son nom revenait régulièrement deux, trois fois à l'intérieur du corpus, on va dire assez suffisamment pour commencer à le creuser un peu plus précisément. Alors, au départ, vraiment, c'était deux, trois romans, je vais en parler, c'est les Lettres de Malaisie en 1898, un peu plus tôt, Les Cœurs Nouveaux en 1896, qui sont ce qu'on va appeler probablement des romans utopiques. Ce qui m'a fait m'intéresser un peu plus à lui, c'est parce qu'il s'intègre à des réseaux d'écrivains, c'est-à-dire qu'il était régulièrement cité autour d'autres auteurs du corpus d'anticipation. Je pense par exemple à Ronnie Aîné ou même Anatole France, etc. Et donc, il m'a fait me pencher un peu plus sur lui. Et c'est progressivement que j'ai découvert son importance dans le corpus. Alors là, je ne parle pas forcément d'une importance littéraire. Je ne vais pas parler de la qualité esthétique de ses œuvres, ce qui est une autre question. Ce n'est pas véritablement ce qui m'intéresse, même si on pourrait se poser la question. Cet auteur-là, alors qui il était ? C'était un auteur assez populaire au cours des années 1890 et 1900. Alors pour vous donner un ordre d'idée, il a même été célébré le 11 décembre 1906 par un grand banquet. de notabilité, de sociabilité de la Belle Époque, comme étant une sorte de grand romancier des foules et des passions, des âmes collectives, ce qui effectivement est un des sujets qu'il développe à l'intérieur de ses romans. Alors pour le situer un peu, il est né en 1862, il est mort en 1920, il appartient à ses générations, comme celle de Zola un peu plus tôt, qui généralement sont des enfants du romantisme, sont aussi proches de... Alors c'est le cas de Paul Adam. Paul Adam, c'est un important auteur du symbolisme, et plus précisément du roman symboliste, ce qui est un enjeu très particulier à la fin du siècle, dans la mesure où le symbolisme est un mouvement principalement de poésie à l'origine, et lui cherche à développer des formes de romans proches de ces enjeux. Alors il débute sa vie sur un plan politique, et ça peut avoir son importance, parce que les enjeux politiques vont être importants autour de la cité qu'il va défendre. Il a débuté sa vie par des formes de sensibilité proches de l'anarchisme, du fourriérisme et du saint-simonisme, donc des formes de sensibilité politique socialisante, on va dire, au sens large du terme, parce qu'il ne faut pas, si on devait rentrer dans le détail, ces différentes sensibilités socialistes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et au fur et à mesure de sa carrière, il aboutit à une forme de nationalisme plus guerrier au cours des années 1914, et notamment pendant la guerre. Et cette évolution-là, elle est intéressante, mais on pourra peut-être y revenir, parce qu'elle concerne notamment le grand projet de Centre mondial. Alors, il a participé à la rédaction du Manifeste du symbolisme, un important texte de la fin du XIXe siècle, aux côtés de Jean Moréas, qui est un texte qui cherche à construire une sorte d'opposition à Émile Zola, en rejetant le soi-disant caractère prosaïque des œuvres de Zola, qui viendrait abaisser l'humanité en parlant de sujets bas, triviaux, la prostitution par exemple, et des auteurs qui cherchent au contraire à revaloriser l'idéalisme, l'idée, pour reprendre leur propos, c'est-à-dire des fictions qui vont accorder notamment à la subjectivité, à l'intériorité des personnages une plus grande place. Et c'est une littérature qui accorde plus d'importance également à tout ce qui est du domaine du rêve, des hallucinations, un réel subjectif vu à travers l'intériorité des personnages et dans une idée de refus de l'objectivité scientifique. En réalité, c'est un corpus très intéressé par les sciences, mais c'est une façon de valoriser l'intériorité humaine et la subjectivité à une époque où aussi se constitue de très grandes philosophies de la subjectivité. On peut penser, tournant des années 1900, par exemple, En tout cas, c'est une période très connue pour cette raison-là. Paul Adam, il est connu pour être pour avoir été une sorte de romancier des foules et de la psychologie sociale. Il est proche des idées, par exemple, de Gustave Le Bon à cette période. Cette idée qu'il existerait des âmes collectives, que la société agirait par des grands rassemblements et des effets de masse, de groupe, de cette façon-là. Il écrit par exemple un texte, Le mystère des foules, en 1895, et il est étudié par un important critique du roman dans les années 1900-1910, qui est Jean-Charles Brun, notamment un de ses textes qui s'appelle Le roman social en France au XIXe siècle, où Paul Adam est présenté comme... le grand romancier des foules. Alors à la même époque, notamment en poésie, autour de Jules Romain se développent des sensibilités qu'on appelle parfois unanimistes, qui ont toutes à peu près le même fondement, c'est-à-dire que l'individu s'exprime plus largement à travers des collectifs, des groupes, ce qui est justement, ils appellent l'âme de la foule. Et c'est là où on aboutit progressivement à un sujet plus urbain, à mesure où la ville, vous le savez, c'est le lieu de rassemblement de la population, de grandes foules possiblement. Et donc, ces idées aboutissent progressivement au cours des années 1900-1910 à un rêve d'un roman des grandes villes ou d'une poésie des grandes villes, dans les deux domaines, poésie et roman. Les deux sont très très proches à cette période-là. Et Paul Adam est parfois vu comme étant ce romancier des foules. Et donc, en ce qui concerne... La dimension plus conjecturale de ses œuvres, plus utopique également. Il est donc l'auteur, Paul Adam, de deux grands romans utopiques. Le premier, Les Cœurs Nouveaux, en 1896. Et je vais faire rapidement un résumé ici de ces deux romans. Le premier, Les Cœurs Nouveaux. Les Cœurs Nouveaux, c'est un texte qui raconte la fondation par Karl de Cavanon, Karl avec un K, c'est important dans la mesure où il est directement fait référence à Karl Marx dans le texte. Okay. Karl de Cavanon, qui est le fondateur d'une cité utopique, une usine. Mmh. Alors, il y a une ambiguïté entre les deux. Est-ce qu'il s'agit d'une ville ou d'une usine ? Dans tous les cas, il s'agit bien d'une grande ville. Qui, en fait, présente à différents personnages le fonctionnement de cette cité. Et il a eu, tout au long du texte, une histoire amoureuse que je ne veux pas ici trop développer avec un personnage qui s'appelle Valentine. Et tout le récit consiste dans le voyage et l'exploration de cette cité imaginaire utopique d'inspiration fourieriste, donc de Charles Fourier. C'est-à-dire que c'est un grand phalanstère, pour reprendre la théorie de Charles Fourier, de la première moitié du 19e siècle. Ce décalage dans le temps a son importance. Il y a 50 ans d'écart entre la théorie de Charles Fourier et son texte. Oui. Dans la mesure où Paul Adam s'inscrit dans un moment de la fin du XIXe siècle de nouvel intérêt pour les théories de Charles Fourier. Mais son texte, c'est bien le récit d'exploration d'un phalanstère croisé à une histoire amoureuse entre Karl et Valentine. Et vraiment, les deux sont indissociables. C'est-à-dire que le récit de la cité et le récit de cette histoire d'amour sont entremêlés très finement. Alors, la cité qu'il présente, c'est une cité du travail réorganisée. On entend des usines en briques, par exemple, et avec toute une architecture à la fois moderne, mais aussi reprenant des éléments à des traditions plus anciennes. Une architecture en verre, en fer, mais également en faïence et en mosaïque, dans une sorte de rêve d'une grande industrie pacifiée qui permettrait un travail au milieu des parfums, des fruits, de la végétation, de la nature, dans un grand modèle hygiénique, c'est-à-dire tout l'inverse de Germinal, c'est-à-dire c'est l'anti-germinal en quelque sorte, ou alors un germinal qui serait réorganisé où tout se passerait bien, si on veut, dans des environnements propres, bucoliques. Parce qu'il y a bien question ici d'une sorte de bucolique industrielle. Et ce qui intéresse très fortement Paul Adam dans ce texte, c'est la question de la passion amoureuse, d'où cette intrigue amoureuse au cœur du texte, qui est aussi une manière de réactiver les anciens... les théories de Charles Fourier, puisque le phalanstère est à l'origine greffé à une théorie des passions humaines. Paul Adam connaît très bien tout ça. Donc ça, c'est pour le premier texte, qui est donc aussi un texte très, très érotique. Paul Adam est un auteur qui développe une importante écriture érotique dans ses textes, même qui, dans certaines de ses œuvres, aboutit à des formes de pornographie, très clairement. Donc c'est aussi, je le mentionne dans la mesure où parfois les imaginaires d'anticipation, notamment scientifiques, sont parfois un peu froids, si on veut. Et ici, cette question de l'érotisme, elle est intéressante chez Paul Adam. Bon, elle est aussi très particulière, c'est pas toujours très agréable à lire, mais en tout cas, c'est présent. Et justement, son deuxième roman, Les Lettres de Malaisie, en 1898, reprend là beaucoup plus explicitement le modèle du récit utopique, puisque c'est un texte, un roman épistolaire, en lettres, donc une forme qui, à la fin du XIXe siècle, est aussi un peu surannée, archaïsante, dans la mesure où elle renvoie plutôt à un imaginaire du XVIIIe siècle, voire avant, les lettres persanes de Montesquieu, par exemple, donc c'est un échange de lettres entre un diplomate espagnol et un narrateur présent en France, et ce diplomate envoie des lettres où il présente l'existence d'une civilisation utopique dans les Philippines, dans l'océan Indien plus largement, sur le modèle d'Étienne Cabé. Le texte cite explicitement Étienne Cabé, ce grand romancier utopique des années 1830 et 1840, à la période justement d'effervescence du socialisme utopique. Et donc on visite cette civilisation et ses différentes cités, qui en réalité sont aussi des images déformées du monde contemporain. C'est une société qui est fondée par des anarchistes dans l'océan Indien et qui reprend donc les idées de Cabé, Proudhon, Saint-Simon, Fourier. Alors plusieurs villes d'inspiration néoclassique sont présentées dans le texte, généralement inspirées des grands mythes gréco-latins. La ville d'Amphitrite, par exemple, qui présente une architecture méditerranéenne dans des bâtiments blancs, une grande végétation bucolique autour de l'eau. La ville de Mars, qui est d'une cité plus ouvrière et qui produit, parce que c'est un grand idéal industriel aussi qui est présenté dans ce texte. Un peu plus loin, la ville de Mercure, que les personnages côtoient. La ville de Mercure qui est présentée comme une ville au milieu des forêts bucoliques, dans des bois et des ambiances qui sont proches, et ça c'est important, on pourrait le développer aussi, mais une atmosphère visuelle, si on veut, dans les textes, qui est proche de ce que fait le peintre symboliste Puvis de Chavannes à la même époque. Si vous connaissez un peu ces tableaux, ce sont des tableaux qui présentent généralement des scènes idéalisées, légèrement bucoliques, de personnages blancs au milieu de lacs et de forêts. D'ailleurs, on reviendra sur Puvis de Chavannes un peu plus tard, puisqu'il a son importance pour le centre mondial. C'est-à-dire tout un imaginaire de lacs, de bateaux et d'idéalisme dans avec une population éthérée et blanche, si on veut. Donc voilà, c'est un parcours de ces différentes cités d'inspiration néoclassique généralement, et des cités qui valorisent grandement la science, les savants, la vérité scientifique, puisque c'est la science et la vérité scientifique qui sont présentées comme des principes de gouvernement de ces différentes cités, ce qu'il appelle même parfois une oligarchie scientifique, et donc la vie sociale est organisée autour de ces sciences. Voilà, pour résumer dans les grandes lignes, quelques aspects importants autour de son œuvre et ses romans utopiques notamment.
D'accord. Alors, là, on s'aperçoit qu'il a des projets assez divergents, mais on se rend compte également que l'un de ses projets, on va dire, porte sur un nom assez impressionnant, la capitale mondiale de l'humanité. Alors, de quoi s'agissait-il?
Alors, oui, tout à fait. On va faire un petit détour. On va quitter Paul Adam pour ensuite y revenir, vous allez voir. Mais c'était un peu le mouvement de mes recherches et de la thèse, dans la mesure où j'ai d'abord lu ces textes et ensuite je me suis intéressé au centre mondial dont on va parler. Et ensuite, en découvrant à la fin que Paul Adam y était lié. Donc, c'est un peu cette logique-là, j'essaie de reproduire ici. Alors oui, effectivement, j'ai découvert au cours de mes recherches, notamment en m'intéressant aux formes d'urbanisme utopique du début du XXe siècle, l'existence d'un projet encore assez méconnu, même encore aujourd'hui, qui est un projet de grand centre mondial des communications, qui est donc une grande cité des sciences, des arts et des sports, à une période d'ailleurs d'intérêt pour de renouveau de l'intérêt pour la question des sports, par exemple. La renaissance des Jeux Olympiques avec Pierre de Coubertin, qui est d'ailleurs quelqu'un lié à ce centre-là, comme on va le voir. Et donc, ce projet-là, tout a changé en 2022 avec l'apparition d'un livre du journaliste Jean-Baptiste Mallet, qui a fait une grande enquête sur ce projet. Il a mené une enquête en Italie, à Washington, dans différentes sources et différentes archives, pour reconstruire progressivement l'histoire de ce projet, qui était déjà abordé par les histoires de l'architecture, mais souvent brièvement. Alors ce centre, il est créé à l'origine par un sculpteur, le sculpteur Henrik Christian Andersen, qui est un peintre et sculpteur américain d'origine norvégienne. Il a une belle sœur, je ne vais pas rentrer dans les détails de sa biographie, c'est très bien expliqué par Jean-Baptiste Mallet, il a une belle sœur qui s'appelle Olivia Cushing, et en fait ensemble ils ont le projet de créer cette grande cité, un projet tout à fait authentique, vraiment, avec pour but de le construire, sachant que Andersen et Olivia Cushing appartiennent à des milieux proches du spiritisme à cette période-là, un spiritisme qui a son importance dans la mesure où il est lié dans ces années-là à de grands rêves de communication. Le spiritisme permet de communiquer avec les morts, l'au-delà. Et il est croisé à cette époque-là, il se croise, si on veut, avec les imaginaires en cours de la téléphonie, de la télégraphie, qui se mettent en place dans la société, la popularisation de ces différentes techniques. Ce qui aboutit, pour résumer très simplement, à ces grands rêves de cités de communication qui viendraient centraliser l'information, notamment l'information scientifique, grâce à différentes techniques ou procédés. Alors justement, Andersen, qui est donc à l'origine un sculpteur, il a par exemple un atelier à Rome en 1896, il est aussi proche de Henry James à cette période, il a même une relation avec lui, et il est lié à différents milieux du symbolisme. Tout commence pour lui par un projet de sculpture, la Fontaine de Vie, sachant que les sculptures d'Andersen sont des sculptures généralement symboliques et allégoriques, c'est-à-dire représentant des personnages, des personnages qui incarnent différentes idées, le soir, le jour, la nuit, l'espoir, ce genre de choses. Et c'est une tradition proche de celle des beaux-arts, d'études des corps, du nu, etc. Et justement, il a le projet d'une grande fontaine, vraiment un grand ensemble architectural avec plusieurs statues allégoriques qui se transforment progressivement en un projet de temple qu'il appelle le Temple de la Vie en 1905, c'est-à-dire en y ajoutant différents édifices, des musées, des bibliothèques, des lieux d'exposition, d'art, de spectacle. Et en fait, son projet prend tellement d'ampleur qu'il devient une véritable, un véritable projet de ville. Et c'est précisément en 1906 que le projet s'étend pour devenir un projet de cité. Et c'est à ce moment-là qu'il choisit de se lier à un architecte français important, qui s'appelle Ernest Ebrard, et il le recrute en juillet 1906 pour donner forme à cette cité. Car, en fait, il est sculpteur à l'origine, ça dépasse ses compétences d'édifier de grands palais, de ce genre de choses. Donc il fait appel à un architecte issu des Beaux-Arts, qui a une formation classique de l'architecture aux Beaux-Arts pour donner forme à cette cité par ses différents bâtiments. Et ils travaillent ensemble, donc le trio, Ernest Ebrard, Andersen et Olivia Cushing, qui est très importante, mais le livre de Jean-Baptiste Mallet l'explique bien. Ce trio aboutit, ça travaille pendant 6 ans environ, à la construction des plans de cette cité. À la fin, la cité, elle ressemble les plans ont été publiés en 1913 dans une édition luxueuse qui regroupe toutes ces images. On voit de grandes vues aériennes d'une cité très régulière, symétrique, de grandes rues alignées, entourées par des canaux et gravitant autour de 3 grands pôles, un centre olympique de sport avec différents palais, gymnases consacrés au sport, un autre, un centre artistique dédié à la culture des beaux-arts, architecture, peinture, sculpture, avec différents centres de formation. Et enfin, le dernier centre, c'est le centre des sciences. Art, sciences, sport, c'est le cœur de cette cité. Et les grandes vues aériennes de la ville qui sont construites par Ernest Ebrard montrent un grand axe central. Vraiment, la ville gravite autour d'un grand axe central. Sur le modèle de certaines cités américaines, on peut penser à Washington, par exemple. Et précisément, Ernest Ebrard, l'architecte, a été lié à différents architectes américains. Et donc, l'apparence générale de la ville est proche de celle de Chicago, par exemple, en 1893, lors de l'exposition universelle. Une ville construite sous la forme d'un axe et des architectures néoclassiques autour de la mer ou d'un grand lac. Alors pour essayer de résumer plus simplement ce grand projet, donc le projet est élaboré pendant 6 ans par l'architecte et le sculpteur, et vers 1912-1913 arrive un moment de propagande, on peut dire à l'époque, c'est-à-dire de publicité du projet, c'est-à-dire de trouver les moyens qui permettent à ce projet de se réaliser. Et donc, ils entament une grande tournée mondiale pour défendre le projet et trouver des financeurs. Et ils rencontrent le projet est soutenu par de très nombreuses personnalités, jusqu'aux des personnalités artistiques issues des milieux artistiques et intellectuels. Par exemple, Jean-Baptiste Mallet explique bien comment des personnalités comme Émile Verhaeren, le poète, soutient le projet, Camille Flammarion également. Alors là, je cite des noms volontairement puisqu'ils sont liés également à d'autres œuvres d'anticipation, Camille Flammarion notamment. Et donc finalement, il rencontre certains grands industriels américains, pense à Andrew Carnegie par exemple. Et donc tout est en place pour que le projet soit réalisé, ce qui aboutit à une grande conférence en décembre 1913 à la Sorbonne, qui est organisé pour non seulement présenter le projet que déjà beaucoup de gens connaissent, mais ensuite attirer des financements pour permettre sa réalisation. Donc tout ça a lieu le 6 décembre 1913, et c'est là que j'ai découvert que Paul Adam était le conférencier en charge de présenter le projet, donc à l'Assemblée. Donc pendant cette très importante séance du 6 décembre 1913, à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre, devant un parterre, donc par exemple on sait que Rodin était présent, le projet est présenté pour être soutenu.
D'accord, justement, nous allons revenir tout à l'heure sur cette présentation publique. Petite pause musicale avec Alexander Ruder dans Eno. Alors, avec tout cela, Kevin, on est vraiment loin de la simple utopie irréalisable. On peut dire que ce n'était pas donc juste un rêve sur le papier, puisqu'il sera, comme tu l'avais abordé tout à l'heure, publiquement défendu.
Alors oui, tout à fait. Là, on parle vraiment d'un projet qui avait pour ambition d'être réalisé. Une grande cité qui a été présentée notamment au roi d'Italie et même au roi de Belgique, et ils étaient véritablement en discussion pour trouver un lieu où la réaliser. Et c'était de toute façon toute l'ambition première de se lier à un architecte comme Ernest Ebrard, c'est véritablement avoir la démarche d'avoir des plans réalisables. Donc ça, c'est très important à garder à l'esprit, c'est que sur le papier, l'objectif était véritablement de construire des plans qui puisse être appliqué. Et donc, si vous voulez, il manquait que deux choses. Il manquait le lieu et la volonté, ce qui est un très grand sujet du temps, la volonté industrielle, économique, pour permettre la réalisation de ce projet. Et si... Alors, il a été en partie réalisé. Il faudrait rentrer dans le détail, notamment parce que, comme c'est souvent le cas dans les grands projets architecturaux, ils ne sont pas appliqués tels quels, mais des morceaux sont extraits et réutilisés par la suite, ce qui va être le cas notamment alors pour des choses bien plus funestes, entre guillemets, puisque... Ici, ce dont on parle, il y a des traces très claires de pré-fascisme, notamment puisque le projet va être en partie repris dans les années 1920 et 1930 par Mussolini. Andersen, le sculpteur, aura des rencontres avec Mussolini après-guerre, et une partie précisément de ces plans vont être repris, mais voilà, juste une partie. Mais c'est souvent le cas, véritablement, en architecture, c'est très rare que les choses soient appliquées telles qu'elles, plus des combinaisons qui aboutissent à des... qui soient ensuite appliquées dans notre monde. Donc oui, l'objectif était véritablement de l'appliquer. Et c'est à ce moment-là que véritablement Paul Adam est appelé, une sorte de figure publique qui puisse permettre, c'est son objectif, c'est que son éloquence en quelque sorte d'auteur doit permettre de rassembler le public autour d'une cause commune et permettre sa réalisation. Vraiment, on fait appel à une sorte de figure d'éloquence qui permettrait, par sa plume, par son écriture, de venir appliquer ses idées. Alors on a quelques détails de cette collaboration avec Paul Adam. On sait qu'un contrat a été fait entre Olivia Cushing et Paul Adam de 2000 francs pour la conférence. Alors c'est une somme assez importante pour l'époque. On sait que Ernest Ebrard et son atelier, qui ont donc été embauchés par Andersen et Olivia Cushing, pouvaient parfois vivre avec 1000 francs par mois travailler à presque des équipes de plus de 10 personnes à temps plein sur le projet. Donc ça laisse donner, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Donc Paul Adam, il est rémunéré 2000 francs pour son intervention, et y compris pour des articles dans la presse, parce que la presse est utilisée pour cette raison-là. Paul Adam, dans sa conférence, il fait différentes... Il défend plusieurs idées. Il célèbre l'art, la philosophie et la période romaine, donc tout un imaginaire de renaissance de l'esthétique classique notamment, et des périodes anciennes, en centrant son propos sur la synthèse des sciences et une volonté encyclopédique. La ville a vraiment pour but de rassembler les scientifiques pour créer, selon lui, un contexte d'émulation scientifique où les artistes et les intellectuels seraient rassemblés pour faire progresser l'humanité vers un meilleur, un bien scientifique et artistique. Donc ça, c'est le but premier de cette cité, et Paul Adam défend cette idée-là. Alors, un des enjeux pour moi dans cette histoire, c'est de essayer d'étudier, de construire le lien ou les relations qui ont pu exister entre l'écriture utopique des romans que je vous ai présentés plus tôt, qui ont bien des parentés et des affinités très fortes avec le projet. C'est par exemple que la ville de Mercure, dans les lettres de Malaisie, est une cité des sciences, d'émulation scientifique. Donc il y a bien une continuité entre les deux. Donc c'est là où la recherche commence vraiment à se mettre en place, dans la mesure où, là, ce que je vous ai fait le résumé, c'est véritablement dans l'ensemble l'enquête de Jean-Baptiste Mallet. Mais le lien avec Paul Adam et la dimension littéraire plus artistique, c'est là que véritablement se joue l'enjeu de la recherche pour moi. Et donc finalement, ce qu'on peut dire dans les grandes lignes, c'est qu'il existe, dans les années 1890, 1900, 1910, tout un milieu intellectuel qui est attiré par des rêves de cités utopiques et scientifiques, dirigés par des scientifiques, y compris sur le plan politique. Vraiment, c'est on confie la gestion politique de la cité à des scientifiques. Et ça, on va dire que la participation de Paul Adam à ce projet, donc, qui a véritablement pour but d'être appliqué, ici, on n'est plus dans une démarche littéraire, si vous voulez, purement esthétique. Vraiment, il y a une application concrète qui est prévue. En fait, elle permet d'éclairer de façon intéressante certaines œuvres d'anticipation qui pouvaient laisser planer un doute, dans la mesure où, par exemple, les lettres de Malaisie mettent en place tout un dispositif narratif qui rend difficile le fait de savoir qu'est-ce que défend Paul Adam. Est-ce que lorsqu'il présente la ville de Mercure, qui est donc présentée à travers la parole du diplomate espagnol, donc c'est toujours à travers des points de vue, on ne sait jamais si c'est le point de vue du diplomate ou le point de vue de Paul Adam. Il y a toujours ce trouble, mais qui est habituel en littérature, pour essayer de ne pas fixer la vérité du texte. On pouvait se demander, est-ce que Paul Adam défend ça ? Est-ce qu'il l'appelle vraiment de ses voeux ? Alors, sa participation au projet permet d'identifier un peu plus qu'est-ce qui l'attire, et qu'effectivement, certaines propositions dans ses romans utopiques étaient reposées sur une certaine croyance personnelle. Ce qui, en fait, s'élargit un peu plus à d'autres auteurs du corpus anticipation. Je pense, par exemple, à Camille Flammarion, qui écrit en 1894 le roman La fin du monde, qui présente le lent déclin de l'humanité, et notamment sa peur face à l'arrivée progressive d'une comète qui peut détruire la Terre. On sait que Camille Flammarion a soutenu le projet du Centre mondial des communications. Il fait partie des soutiens avec Émile Verhaeren, notamment, autre auteur intéressant dans la mesure où Émile Verhaeren est souvent présenté comme un critique des grandes villes dans ses poèmes. En tout cas, pour Camille Flammarion, dans La fin du monde, est bien présenté un moment où les scientifiques ont le pouvoir dans la société, où il y a une sorte de grand congrès scientifique qui est véritablement une sorte comme d'oligarchie scientifique qui est en fait à la charge de la société. Alors c'est intéressant de pouvoir mettre en comparaison ces différentes étapes, sans forcément trancher. Camille Flammarion voulait que la société soit dirigée par des scientifiques, mais elle permet de nourrir, en tout cas, ce contexte-là. Et pour résumer très simplement, les milieux du roman utopique sont assez favorables à ces idées, ou ont pu les défendre.
D'accord. Alors, qu'est-ce que, on va dire, cette histoire nous apprend à nous autres aujourd'hui, plus largement sur la littérature et l'urbanisme?
Alors, sur l'urbanisme, dans un premier temps, ce qui est très important dans le projet d'Ernest Ebrard, donc Ernest Ebrard, architecte des Beaux-Arts, il est très important de comprendre que pour l'architecte, ce projet qu'on lui a demandé de faire, de construire une cité entière, est tout à fait inhabituel. Il y a, à ma connaissance, que deux grands projets de cité complète construit par des architectes de formation, et j'insiste sur le de formation, c'est-à-dire qui suivent une formation traditionnelle de l'architecture, c'est-à-dire passage par l'Académie des Beaux-Arts, et par exemple le fait d'obtenir le prix de Rome, qui est une importante institution dans le domaine de l'architecture, ce qui est le cas de deux architectes du début du XXe siècle, Tony Garnier à Lyon et Ernest Ebrard. Et à ma connaissance, ces deux architectes-là sont les seuls à avoir proposé des plans de cité complète imaginaire, ce qui est vraiment inhabituel dans les professions de l'architecture. Un architecte travaille généralement à l'échelle d'un bâtiment, d'un édifice, ou d'éléments plus ponctuels. Alors, et précisément, c'était un des enjeux, on le voit bien dans la correspondance avec Andersen, que le passage pour l'architecte de l'édifice au plan complet d'une cité est un véritable enjeu. Et là, sur le plan de l'histoire de l'urbanisme, c'est très intéressant, dans la mesure où, parallèlement, à la même époque, se développe, dans des milieux très proches, le rêve des grands plans d'urbanisme. On peut penser par exemple à Otto Wagner, qui réalise en 1875 le plan de Vienne, de reconstruction de Vienne, et en fait se généralise progressivement, d'abord en dehors de la France, puis en France, l'idée que l'urbanisme doit se constituer par la construction de grands plans d'extension des villes et de rationaliser ces plans-là. Et en France notamment, cette idée que les villes doivent être pensées dans leur ensemble, systématisées, c'est quelque chose qui se concrétise véritablement en 1919 avec la loi Cornudet, qui en fait oblige les municipalités à avoir des plans d'extension. Donc c'est d'un point de vue d'histoire de l'urbanisme, cette chose-là. Et pour la littérature, donc il y aurait deux choses pour l'urbanisme, à la fois les grands plans d'urbanisme, qui est véritablement l'enjeu des années 1900-1910, et plus subtilement, dans le cas d'Ernest Ebrard, le fait que les architectes soient ceux qui orchestrent ces plans-là. Puisqu'en fait, il y a une concurrence très forte dans l'urbanisme entre plusieurs disciplines, par exemple les ingénieurs, et on considère généralement que le 19e siècle est le siècle des ingénieurs dans l'histoire de l'urbanisme, et on voit une tentative de la part des architectes de formation issus des Beaux-Arts d'en prendre certaines des prérogatives comme le fait Ernest Ebrard, construisant un plan entier, ce qui est vraiment toujours inhabituel. Donc ça, voilà. Et pour la littérature en elle-même, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Paul Adam, plus précisément, on peut voir le progressif intérêt entre 1890 et 1914, 1913, un renforcement du sentiment architectural dans la littérature, c'est-à-dire la volonté d'accorder à l'architecture, aux édifices bâtis, une place de plus en plus importante dans la réflexion artistique et littéraire. Et on peut voir dans l'évolution de Paul Adam certains de ces enjeux.
D'accord. Alors, petite transition sonore et voilà, on va tirer vers la fin de cette émission. Alors, Kevin, pour conclure, est-ce qu'il reste encore des questions ouvertes dans ton travail ?
Alors oui, bien sûr, j'ai beaucoup encore de questions, de choses que je pourrais explorer, ou du moins les préciser, les rendre plus fines. C'est surtout ça l'enjeu. Par exemple, la nature exacte de la collaboration entre Paul Adam, Ernest Ebrard et le sculpteur Andersen, c'est toujours un enjeu. C'est-à-dire que je sais qu'ils ont collaboré. Je peux réussir à identifier précisément ce qu'il y a de présent dans l'œuvre de Paul Adam qui fait écho au projet, par exemple, entre les lettres de Malaisie et le projet de Centre mondial des communications. Il y a tout un ensemble de sujets qui sont les mêmes. Donc ça, très bien. Mais les raisons pour lesquelles Andersen choisit Paul Adam sont toujours pas très claires. Pourquoi en fait lui, pourquoi alors j'ai quelques éléments d'explication. Je sais que Paul Adam, par exemple, en janvier 1913, donc environ 4-5 mois avant la rencontre avec Andersen Cushing, écrit un texte important sur Rio de Janeiro, qui présente comme une cité idéale et dans des termes très proches de ce qui peut intéresser le couple. Donc il faudrait, et ça c'est un enjeu qui pourrait aller plus loin, il faudrait faire un travail plus approfondi dans les archives. Je sais où elles sont, il y a des archives un peu partout, Jean-Baptiste Mallet les compile. Certaines thèses sur Paul Adam, notamment une thèse en 2019, montrent des fonds d'archives. Donc il serait possible d'aller plus loin dans l'explication de leur collaboration et éventuellement trouver des traces de lettres ou autres qui permettraient d'expliciter un peu plus. Mais ça, en fait, je pense que c'est des choses qui vont confirmer des intuitions plus que de permettre de découvrir.
D'accord.
Et aller toujours plus loin dans l'exploration des réseaux, de ces réseaux entre littérature et urbanisme, que j'arrive à toucher du doigt ici. En allant dans différentes sources, différentes archives, il serait possible d'aller encore plus loin dans la précision de ces relations.
Merci beaucoup, Kevin, pour cet éclairage passionnant. Alors, on retiendra que, bien avant nos débats, bien sûr, contemporains sur la ville durable ou intelligente, la ville était déjà un espace de rêve, de projection et parfois de tension. Vous étiez, bien sûr, sur Radio Campus à l'émission Les Chemins de Travail de la Recherche sur la 90.fm. On se retrouve dans quelques mois. Au revoir.